1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you ready?
No. Tonight we present a very warm little story called...
Salut les gars, salut les auditeurs de PFM 99.9, vous êtes bien sur les Décadrés. Alors aujourd'hui on va dire aussi
ils
bonjour.
Sont sur nous.
Ils sont sur nous, exactement, c'est le matin. Alors oui, comme vous entendez, chers auditeurs, nous avons un invité, une personne qui n'est pas présente avec nous. D'abord on va dire bonjour à notre cher ami Ange.
Bonjour.
Tu vas bien Ange?
Oui. Je suis en forme.
Bon, bah, si tu vas bien, tout va bien, c'est super.
Ouais.
Et maintenant, on va saluer notre invité mystère, cet homme à la voix suave qui se trouve au téléphone.
Ouais, la voix bizarre, du coup.
Bonjour. Mais...
voilà, donc Benjamin de Neuf Églises. Oui, Benjamin qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est ailleurs.
Oui, la vérité est ailleurs.
La vérité est ailleurs, exactement. Donc Benjamin, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, puisque c'est une émission qui est consacrée au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, tu es au Festival de Cannes.
Oui, et là, comme vous l'entendez, un peu de vent est arrivé. Le soleil est toujours là, il brûle la peau.
Je te déteste.
Alors oui. du coup ce festival il a commencé à peu plus d'une semaine si je me trompe pas, c'est bien ça?
Il a commencé il y a au moins 10 jours, plus que ça, même, c'était un mercredi.
Ouais.
Avec en ouverture le film de Woody Allen.
Alors justement, est-ce que tu étais bien présent le jour de l'ouverture?
Oui, j'ai vu le film de Woody Allen.
Alors justement, pour ce film d'ouverture, est-ce que ça a donné le ton de ce festival? Humour, romantisme? Qu'est-ce que ça... Pourquoi, à ton avis, un tel choix de film pour l'ouverture du Festival de Cannes?
Oh, bah, je pense que c'était pour donner une ambiance agréable. Et un Woody Allen, c'est toujours une bonne surprise, toujours agréable. Bon, là, par contre, la grande ironie, c'est que dans le film, je ne sais pas si les gens l'ont bien regardé, mais le film ne cesse de critiquer Hollywood, la superficialité des stars et du cinéma, quoi, la truquerie du cinéma. Et quand vous sortez du film, bah, vous voyez que ça. Vous ne voyez que ça au festival, du coup c'est très rigolo.
Du coup l'ambiance elle a dû être assez amusante en sortant de ce film.
Ah bah oui, puis on se demande surtout si ceux qui l'ont programmé l'ont bien vu. Parce
que... Bon, ils se sont peut-être dit c'est un Woody Allen, c'est sûr de passer, hein. Peut-être.
Ah, mais peut-être, ouais, peut-être.
Et du coup, de cela, un festival de Cannes pour toi qui a été rempli de rencontres.
Oui, beaucoup.
De rencontres, beaucoup. De discussions, tu as donné beaucoup d'interviews, tu as pris la pause avec pas mal d'artistes.
Si vous voulez voir ça, il faut aller voir sur son compte Instagram.
Exactement, hein, le compte Instagram de notre décadré Benjamin Delefec.
Ou sur mon cher compte Facebook.
Ou sur son compte Facebook.
On est harcelé de photos de lui avec des stars. Ou des moins stars, d'ailleurs.
Ouais, non, mais c'est pas de ma faute, les conférences de presse, j'étais obligé de prendre la parole.
Ah, d'ailleurs, pendant les conférences de presse...
Voilà.
Je sentais ma force dépasser le tout.
Magnifique accent anglais, d'ailleurs, pendant tes conférences de presse. C'était magique, surtout face à Russell Crowe et Ryan
Ouais,
Wilson.
Mais ça, c'est pas juste, parce que j'ai perdu ma force, justement, devant le beau regard de Russell Crowe.
Ah bon, on a senti qu'il se foutait de toi, un peu.
Non, Ange, ne sois pas jaloux, on sait que tu es loin sous la pluie,
C'est pour ça.
Bon, du coup, revenons à nos moutons pour ce Festival de Cannes. Alors, est-ce qu'il y a parmi, justement, ces conférences de presse, une conférence qui t'a marqué, qui t'a paru peut-être la plus intéressante, ou une rencontre avec un scénariste, un auteur, un réalisateur, un acteur, pourquoi pas, qui t'aurait chamboulé?
Oh bah, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle de Bruno Dumont, notre cinéaste... du Nord, qui est venu pour présenter Malout.
Dont on a présenté une bande-annonce lors d'une émission décadrée.
Exactement, il y a eu Paul Schrader, qui est le scénariste de bien des films de Scorsese, Taxi Driver et Jingle Bell, Tentation du Christ, qui est là, venu présenter son film. Tant que ce scénariste, co-scénariste et réalisateur, donc le film s'appelle Dog Eat Dog. Ouais, il y en a eu plusieurs en fait, c'était des grandes rencontres, des rencontres assez fortes. Assez émouvante aussi.
D'accord.
Et surtout intéressante, parce que je vais vous dire une chose, c'est que la conférence de presse de Steven Spielberg, c'était ce qu'il y avait de plus formaté. Voilà.
Ouais, quelque chose de très réglementé par la presse et par les attachés.
C'est surtout, une fois que vous posiez votre question, etc., Une fois que vous suiviez bien le protocole, vous pouvez poser votre question. Bon, c'était une bataille parce qu'il y avait plein de monde. Il y avait New York Times, il y en avait de partout. Mais le fait est que, par exemple, c'est Kathleen Kennedy qui a pris la parole. Et dans la vidéo, ce qu'on ne voit pas, c'est que Steven Spielberg m'avait répondu qu'il ne se sentait pas de répondre. Et donc, c'est Kathleen Kennedy qui a pris la parole. Et elle a eu un discours assez bien préparé, très très rodé et complètement à côté de ma question.
Ouais, donc du coup, quelque chose où il y a une conférence de presse avec beaucoup moins de spontanéité, comme tu as pu en avoir justement avec le film Nice Guys, par exemple.
Oui, voilà, avec le film Nice Guys, c'était très rigolo. Parce que même,
de Shane Black avec Ryan Gosling et Russell Crowe, justement.
Voilà, même du coup, même quand on perd son anglais, ce qui est rigolo, c'est que Shane Black ne manque pas d'humour. Quand on nous dit, bah oui, mais Lucchini va vous draguer, et ben vous pouvez avoir de la répartie, ce qui est très rigolo. Par contre, face à, je dis, à cette équipe du bon gros géant, c'était très formaté. Et au fond, la fille du bon gros géant était déjà un produit dérivé en soi, quoi, un produit promotionnel du film, puisqu'elle est exactement l'image de l'héroïne du film, à l'inverse de la grande, grande actrice et jeune actrice de The Nice Guys, toute timide à la conférence.
D'accord. Et peut-être pour terminer, Benjamin, vu qu'on n'a pas énormément de temps, et toi non plus, tu as beaucoup à faire, est-ce que tu aurais pour les auditeurs de PFM une recommandation pour un film, ou même un film que tu as vu en rétrospective, à conseiller à nos auditeurs ?
Bah écoutez, hier, il y a eu le palmarès qui a été donné.
Oui.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de voir des films qui n'y ont pas été.
D'ailleurs, le palmarès a été rendu, je n'ai pas bien suivi. Est-ce que tu pourrais nous donner les certains, enfin, qui a eu la Palme d'Or, par exemple?
Ah, la Palme d'Or, alors, c'est Ken Loach, du haut de ses 80 ans, il me semble, ouais. Qui a eu donc la Palme d'Or pour Daniel Blake. Et ça serait bien passé. Le prix du jury, bah, c'est forcément Xavier Dolan, celui qui est l'école de la vie. Hein.
Ouais.
Voilà. Mais après, il y a eu quand même des plus petits prix qui ont été distribués. On est déçu quand même pour Neon Demon, qui a eu quand même un prix de la meilleure musique composée, mais tout de même.
Ouais.
Donc pour Cliff Martinez, Malout a eu un prix pour la meilleure musique synchronisée dans un film.
Ah ouais, je ne savais même pas que ce genre de titre existait.
Non, mais moi non plus.
Ils l'ont créé pour Malout.
Sinon, on peut être content quand même pour le film de Asghar Farhadi, qui s'appelle Le Client, Forest Sound, et qui a eu le prix du meilleur scénario et de meilleure interprétation.
Bon. Ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression qu'ils essaient de... À chaque personne qui est nominée pour la Palme d'Or, ils essaient quand même de refourguer un prix à chacun d'entre eux, quitte à vanter des prix absolument incroyables. Mais ouais, c'est vrai que le prix de la meilleure musique synchronisée pour Malout, c'est étrange.
Ah, c'est surtout qu'ils n'ont pris aucun risque.
Ouais, c'est peut-être.
Ils n'ont pris aucun risque, ils n'ont pas récompensé quelque chose qui innovait, qui tentait des choses à l'image de The Neon Demon, Nicolas Winding Refn.
Qui est aussi l'auteur de Bronson et aussi de Drive. De
Tony God Forgives, de Valor Rising, ou de Pusher. Ou même encore, ils auraient pu récompenser Malout, qui fait un très bon succès en salle. Mais ça n'a pas été le cas.
Du coup, tu conseilles à nos auditeurs Neon Demons, par exemple?
Alors, Neon Demon, je vous le conseille, c'est une vraie expérience de cinéma. Alors, par contre, il faut vous laisser vous envoûter ou être prêt à faire un effort de lecture. Parce que si vous y allez juste pour vous divertir, vous risquez de vous faire fondre le cerveau, je préfère vous le dire.
Okay. Et bah du coup, Benjamin, nous, on te remercie.
Oui.
On est très content de t'avoir eu comme envoyé spécial, même si en réalité tu travaillais pas pour nous.
Non.
Mais c'est super d'avoir pu profiter de cette occasion. J'espère, et les auditeurs espèrent qu'on te reverra très vite à bord du vaisseau décadré.
Bah écoutez, dès la semaine prochaine.
Exactement. Benjamin, je te souhaite une bonne journée et encore merci pour le temps que tu nous as consacré.
Merci à
et
vous.
Profite bien du soleil.
À bientôt.
Oui, bisous.
Salut. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyme and kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that trapping ass food. I've been bad, bro, but you get
I heat flames up, grab fire out, make me light my boat. Excuse me, oh me, I got a lot of goofy. Hard have a freaking dollhouse type of goofy. Curtains go up, it's going down to the thing out the frame with my band.
Sur PFM 99.9 et vous venez d'entendre Phil Wright du film The Nice Guys, réalisé par Shane Black avec Russell Crowe et Ryan Gosling.
Voilà, un film dont Benjamin, notre envoyé spécial à Cannes, nous a parlé il y a quelques instants.
Tout à fait.
Et je profite également de cette occasion de vous avoir entre mes petites mimines, auditeurs PFM, pour vous informer qu'une soirée à thème cinéma et jeux vidéo a été prévue au Cinémovida d'Arras le vendredi 27 mai pour le film Warcraft et Scott Pilgrim versus The World. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ça va être une soirée très chouette. De plus, nous serons là certainement et pour couvrir l'événement. Alors du coup, justement, notre envoyé spécial Benjamin à qui nous parle de Cannes. Moi, je voulais profiter de ce retour sur cette nouvelle édition du Festival de Cannes 2016 pour revenir sur un film, justement, qui était classé hors compétition au Festival de Cannes de 2015. Alors, peut-être que Ange va savoir de quel film je parle.
Ah, mais oui. Mais je le dirai pas parce que sinon ça gâche le suspense. Mais je vois très bien. Alors, c'est un très bon film, plein de couleurs.
Exactement.
Et qui est aussi agréable à voir en noir et blanc, je présume.
Exactement. Donc il s'agit bien de Mad Max Fury Road. Alors un choix qui est motivé aussi par le fait que cette année, c'est ni plus ni moins que George Miller, qui est réalisateur de cette Fury Road, qui est le président du jury pour cette 69e édition. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le film Mad Max et son univers, en fait il faut savoir que Mad Max Fury Road est le 4e opus de la série de films Mad Max. Les trois précédents mettant en scène Mel Gibson dans la peau de ce cher Max Rokatansky. Et pour ce quatrième volet, c'est Tom Hardy qui s'y colle. Alors Tom Hardy qu'on a retrouvé dans des rôles de délinquant à l'âme poétique dans Bronson de Nicolas Winding Refn, dans le rôle de grand méchant tel que Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, ou encore en combattant chevronné dans le film Warriors, dont je ne sais plus le nom du réalisateur, il faudra que je vérifie ça.
Et en salopard de trappeur dans The Revenant.
Exactement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que grâce à cette interprétation, Tom Hardy assure la relève avec conviction. Et je pense que Ange est tout à fait d'accord avec moi.
Oui, tout à fait. Il est juste génial.
Et voilà. Et Mad Max Fury Road, en fait, c'est un univers post-apocalyptique où les hommes se battent au milieu d'un désert pour récupérer de l'essence et de l'eau, un monde souffrant de sécheresse et où règne la loi du plus fort, un monde où les gangs de motards, les sectes, les clans et les cannibales ont pris le pouvoir. Et l'un de ces clans est aux ordres d'Immortan Joe, ancien militaire qui s'est reconverti en chef tyrannique et qui se fait trahir par l'une de ses fidèles partisanes, son impérator Furiosa, qui est interprété par Charlize Theron. Et qui embarque alors avec elle toute sa tripotée d'épouses, enfin l'épouse d'Immortan, les épouses d'Immortan Joe, des épouses hein, en gros qui lui servent d'esclaves et de pondeuses. Voilà, en gros c'est l'idée. Et au milieu de ce joyeux bordel, il y a un survivant. Il y a l'ultime survivant. Il y a Max. Un survivant qui se retrouve en fait malgré tout impliqué dans une espèce de traque contre son gré, hein, mine de rien. Mais je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire et je vous invite donc à découvrir ce film. Alors si je vous parle moi de ce film, ceci pour ce personnage de Max. Alors, c'est un personnage torturé qui au long du film est tenté par des visions dans lesquelles il voit le fantôme de sa fille. Max, c'est un survivant qui erre dans les plaines du silence à la recherche d'une rédemption. Et sa rencontre avec le personnage de Furiosa va lui permettre d'accomplir cette fameuse quête de rédemption, mais aussi de redonner une lueur d'espoir à une humanité qui semble avoir sombré dans la folie. Et comme le dit l'une des épouses d'Immortan Joe, l'une des questions qui est posée deux, trois fois pendant le film, c'est qui a tué le monde ? Qui a tué le monde ? Et bien, ni plus ni moins que les gens qui l'habitent, en fait, qui le siègent. Alors, Miller est parvenu à créer un personnage vraiment avec un caractère complètement implacable. Pas hermétique, mais implacable. Et qui plus est, le personnage de Max, enfin, grâce à l'interprétation de Tom Hardy, est vraiment représenté comme une espèce de force de la nature qui va braver les dangers, qui va dépasser ses limites et qui ne va pas hésiter à faire les choix les plus difficiles.
Il se laisse porter par son instinct de survie.
C'est ça.
On le voit clairement.
C'est un animal. Hein, Et pourtant, il y a, on sent une sensibilité dans ce personnage, une fragilité qui est cachée justement par cette espèce de présence, ce charisme implacable que Tom Hardy a trouvé justement hein, dans son interprétation. Donc, des personnages qui évoluent donc, dans une histoire que certains vont peut-être trouver un peu simple, hein, mais au final, c'est sur cette route vers la rédemption que les personnages vont subir des épreuves et qui nous donneront l'occasion de voir des scènes d'action déjà incroyables, filmées avec une technique et un montage à la fois des plus fous, mais aussi des plus raffinés. Et c'est pour ça que je vous invite donc, chers auditeurs, à partir à la rencontre de cet univers, ce qui nous donnera l'occasion d'en apprendre un peu plus aussi sur la mythologie du personnage de Max. Mais également, je me permets de vous informer sur le fait que, comme le disait notre ami Ange tout à l'heure, une nouvelle version du film Fury Road devrait apparaître en noir et blanc. Affaire à suivre.
Tout à fait.
Et sur ce, moi, je vous laisse sur l'une des musiques du film, ma préférée d'ailleurs, qui s'appelle très sobrement Brother in Arms.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute you!
execute every motherfucking last one of you.
Ah, au secours, c'est une catastrophe, nous sommes attaqués par des renégats armés. J'ai pas compris tout ce qu'ils ont dit, hein. Mais ils ont l'air dangereux, ils sont armés. Nous sommes en ce moment assiégés par des membres du film Pulp Fiction. Ah,
j'ai peur.
Non mais je vous ai bien dû. À vous, vous y avez cru. Qui a cru, mon petit? Bon, là, il y a Antoine qui me regarde quand même, et je vois dans son regard qu'il se dit que je vous prends pour des cons. Mais j'ai cherché longtemps, mais très longtemps, exactement une heure, comment introduire ce film. Il y avait bien des manières dont je me suis dit, pourquoi pas celle-là? C'était pas mal, non?
Non, c'est, en plus, c'est le début du film.
Bah oui, tout à fait.
C'est une scène phare et culte.
Bah tout à fait. C'est... Moi, j'adore cette scène. Donc,
ouais, j'aime beaucoup aussi.
Tim Ross est très bien dans cette scène. J'ai oublié le nom de la deuxième actrice, mais bon. Celle qui a la belle voix à la fin. Mais bon, voilà. Ça, c'est fait, on passe à la suite. Donc, sans transition. Intro travaillée quand même. Pulp Fiction est un film bien connu des connaisseurs comme des moins connaisseurs du cinéma, même si c'est uniquement par son nom. Réalisé par Quentin Tarantino, qui nous a offert bien d'autres films tels que Jackie Brown, Django Unchained, Reservoir Dogs, ou même. Inglourious Bastard. J'ai eu une perte de mémoire d'un
Kill
coup.
Kill Bill également.
Kill Bill, tout à fait. Mais je tiens à préciser que Reservoir Dogs est mon préféré. C'est l'un de ses premiers et je le kiffe.
Moi, je préfère Jackie Brown. Moi, c'est
mon petit chouchou. Ouais, mais bon.
C'est pas grave. Ouais. Le mec qui refuse le débat.
Tout à fait. Parce que je n'ai pas envie de parler de Jackie Brown, mais de Pulp Fiction, tu vois. Que trouve-t-on dans Pulp Fiction pour qu'il ait autant de succès, pour qu'il soit connu des connaisseurs comme des moins connaisseurs du cinéma? Donc autant de succès qui lui a valu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1994.
Exact, c'est pour ça qu'on en parle.
Et oui, tout à fait, c'est ça le lien direct avec Cannes, notre émission spéciale Cannes aujourd'hui. Ah ah, il y a de la recherche quand même. Et j'en suis d'autant plus fier parce que Palme en 94, c'est aussi mon année de naissance et sans vouloir me vanter, on peut dire que c'est un bon cru.
Eh ben c'est marrant parce que moi aussi je suis en 94.
C'est tellement bon. Benjamin non par contre.
Non, il est en 93.
Ah voilà. Mais bon, passons. Revenons à nos moutons, on y trouve des meurtres, règlements de compte, de la drogue, de la religion, de l'humour, de la vengeance. Tout cela accompagné de tueurs à gages férus de cheeseburger, un boxeur en cavale, un dangereux caillis, d'une épouse totalement défoncée et... ce joli monde équipé d'une mallette noire mystérieuse, ouais, d'une bible, d'un katana ou d'une montre de famille, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans ce film. Donc voilà, je sais qu'en vous disant tout cela, ça annonce un beau merdier, mais en fait on se retrouve face à une merveilleuse fresque ensanglantée dans laquelle se croisent et se recroisent tous ces petits personnages.
Exactement.
Et c'est ce qui vaut le coup tout d'abord dans ce film. Vous ne voyez pas des personnages comme ça, juste tout bonnement stéréotypés. On va à la rencontre des personnages dans ce film. On découvre ainsi des tueurs à gages qui se montrent très philosophes,
exact,
se posant sans cesse des questions sur ce qu'ils font et pourquoi ils le font surtout. Ce sont d'ailleurs mes deux personnages favoris, joués par Samuel Lee Jackson et John Travolta,
exactement,
qui sont juste énormes, je les
Marcus
adore.
Marcus et Vincent.
Tout à fait. Donc ce ne sont pas des tueurs qui tuent dans ce film et qui se cassent direct sans dire un mot. Non, ce sont des personnes normales, tout comme vous et moi, et qui causent énormément. C'est ce qui me plaît chez eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. Ils se retrouvent dans des situations tout simplement énormes à parler de cheeseburger dans une voiture, à savoir quelle est la différence entre un Royal Cheese et un cheese normal, jusqu'à tuer une personne par accident. Mais voilà, c'est ce qui fait le naturel en fait de ces personnages et c'est tout simplement ce que j'adore dans ce film.
Justement avec cette réplique culte, est-ce que tu sais comment on appelle un quarter pounder with cheese en Europe? C'est Royal Cheese.
Yeah. Mais quelle est la différence? Là est la question.
Ouais, c'est, je sais pas, le système métrique. Ouais,
c'est assez spécial hein, comme
c'est
discussion.
Ça. Non, mais c'est exactement.
Mais c'est que on retrouve beaucoup de discussions comme ça dans ce film et c'est énorme quand on voit la vie de personnage et on se retrouve pas face à des personnages. Bon, il a que sa commission, ils vont la faire et puis c'est tout, basta.
Non, les dialogues sont des. Enfin. Là, le film, enfin, c'est là que le film est intéressant, grâce à ces dialogues, justement, énormément grâce à ces dialogues qui résonnent comme des espèces de petites punchlines, en fait, et qui nous marquent, en fait. C'est vraiment un film qui est composé de répliques cultes, par exemple, même l'histoire, comme tu disais, de la montre, là, de Butch.
Oui,
ça,
tout à fait.
Ouais, de Butch, interprété par Bruce Willis, quand il a un espèce de flashback où il se rappelle dans les conditions dans lesquelles il a eu la montre de son père, et que Christopher Walken en fait lui raconte l'histoire de cette montre qui a été gardée dans les entrailles, si je puis dire, de son père et de ses amis, enfin que c'est un héritage. Mais et même si c'est très étrange, on sent que l'héritage est très important aux yeux du personnage.
Faut le garder, quoi. Cette montre est très importante dans la famille. Enfin voilà, c'est du Tarantino, quoi. Il y a que dans des films de Tarantino où je vois des trucs assez étranges comme ça. Après, c'est dans d'autres films on les voit, mais plus poussés peut-être. Mais là, c'est subtil et en même temps, ça paraît tout à fait normal. C'est ça le
ouais,
truc.
Ouais. Après, je trouve que il y a une comment dire, il y a une mode qui s'est créée aussi à partir de ce film, la mode un peu de Tarantino. Après, ça arrivait après sur aussi d'autres films. Mais je sais que j'ai énormément de respect pour, par exemple, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, ou quand même les Kill Bill, qui je trouve font partie des meilleurs films de Tarantino. Mais c'est vrai que il y a une évolution dans... Comme tu disais, Pulp Fiction est une fresque ensanglantée, et en ça, oui, elle est ensanglantée, mais jamais dénuée de nuances, de sens, d'humour, de dérision aussi.
En parlant d'humour, même les scènes de meurtre, ça sont très drôles.
Exactement.
Quoi. Les scènes d'action où c'est très sanglant, où même on devrait peut-être avoir peur, ça nous pousse vers le suspense, vers les frayeurs.
Voilà,
au final, c'est très drôle. Quoi.
Mais voilà, les morts, même si parfois elles avaient un côté gaguesque, n'étaient pas. Voilà, ça restait des morts, entre guillemets. Enfin, c'était la nature. Enfin, c'était vraiment une mort, quoi. Enfin, on avait conscience que malgré la mort de l'un des, par exemple, il y a l'un des gars qui se fait exploser la tête par accident parce que l'autre il est en train de le braquer par erreur avec son flingue dans la voiture. Avec, il se prend un espèce de dodane. Il appuie sur la gâchette, il lui explose la tête alors que c'était pas prévu. Je veux dire, c'est cruel, mais c'est drôle parce que justement c'est un accident, c'est gaguesque. Mais justement là, enfin moi j'ai un petit problème justement avec les films de Tarantino actuellement parce que j'ai plus ce côté-là, il y a un côté cartoon de la mort, avec les... Enfin, je me souviens d'une scène dans Django Unchained, même si j'ai beaucoup aimé Django Unchained, hein, c'est pas la question. Par exemple, quand il tire les effusions de sang en mode grosse mode peinture, enfin, je trouve qu'il y a une... La violence dans les films Tarantino devient de plus en plus gratuite. Cette sensation-là... Il n'y a plus le côté gag, il y a le côté cartoon et gratuit.
Dans certains films, il récupère le côté gag avec, en mettant musique l'explosion des têtes à certains moments. Mais au final, c'est vrai que là, c'est plus aussi spectaculaire qu'avant. On dirait qu'il met c'est presque sa signature, il la met pour dire que c'est lui. Quoi.
Oui, voilà. Mais moi, je trouve ça dommage parce que pourtant, les morts dans les autres films ne sont pas forcément... plus spectaculaire que ça. Dans Pulp Fiction, les morts sont pas spectaculaires, mais elles sont spectaculaires dans le sens où elles marquent par leur côté gaguesque, justement.
Enfin voilà, la réalisation est de plus très bonne. On oscille entre les différentes histoires sans s'y perdre dans la chronologie. C'est ce qui est dur à gérer pour un film, je pense, dans ce style, puisque chacun des personnages évolue à son rythme. Mais là, peut-être que Tarantino s'est servi de la très grande phrase des inconnus. Enfin, je dis des inconnus, c'est peut-être pas eux qui l'ont inventé, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Puisqu'il nous le fait comprendre dans toutes les scènes, avec soit de légers flashbacks discrets, soit avec de petits éléments qui nous permettent de situer l'action dans le temps. Donc c'est en effet réalisé subtilement, et c'est un film réalisé subtilement donc, et qui sent parfaitement dans le film. C'est vraiment un style vraiment précis pour ce film, ce qui en fait d'ailleurs sa grande signature à mon goût.
D'accord.
Enfin voilà, après il est accompagné d'une très grande bande-son que je trouve tout simplement géniale, qui est à la hauteur de, je la retiens dans ma meilleure bande-son à côté de, des Gardiens de la Galaxie et de Good Morning England. Donc voilà, pour vous dire, c'est des vieilles musiques, franchement elles sont juste géniales, et faudra que vous en écoutiez vous de votre côté, parce que déjà ça se trouve très facilement et elles sont juste énormes à écouter, quoi.
Et ce qui est d'autant plus exceptionnel aussi avec ce film, c'est que justement c'est pas un film si évident que ça, la narration, enfin l'intrigue, la narration, c'est pas évident, faut s'accrocher parce que c'est des retours en arrière, des personnages qui interviennent, qui meurent et qui reviennent juste après, c'est pas évident à suivre, hein. Et enfin il y a un enthousiasme avec ce film qui est tout à fait incroyable, quoi.
Enfin voilà, c'est fini pour moi et on va vous laisser.
Oui, on va vous abandonner.
Les décadrés vous quittent, il est l'heure.
C'était donc une émission spéciale Festival de Cannes. On vous retrouve très très bientôt. On vous embrasse énormément. Vous étiez donc
plein de bisous
sur PFM 99.9
tout à fait.
les décadrer.
Et à bientôt.
À bientôt.
1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un intro dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 en compagnie des décadrés avec Benjamin, Antoine et moi-même Ange.
Écoute, ça va arriver les voisins.